vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeyron.
Bonjour chers auditeurs, cher Alexandre.
Aujourd'hui,
bonjour. Bonjour. Dans cette émission, nous allons essayer de répondre à cette question: la Bible est-elle responsable de la crise écologique? Et ensuite, nous verrons sur le plan pratique comment observer notre relation à nos animaux domestiques et familiers.
Merci pour cette introduction, Didier. Oui, nous allons partir en 1967. Un article dans une revue scientifique, la revue Science, s'intitule « Les racines historiques de notre crise écologique ». L'auteur, un dénommé Lyne White, est un historien médiéviste américain. Que nous dit cet article? Alors, il part d'un constat, c'est que l'homme a toujours agi sur son environnement. Mais, dans le passé, de manière limitée dans le temps et l'espace. C'est un article qui est divisé en trois parties. Donc je vais reprendre un petit peu ces parties pour vous les expliciter, pour voir quels sont justement les arguments de cet historien américain. La première partie se réfère à la tradition technique et scientifique de l'Occident. Donc ce qu'il note, c'est que l'Occident, depuis presque toujours, a absorbé des éléments venant d'autres cultures, d'éléments scientifiques, pour se créer une spécificité particulière et pour développer justement la science, à partir d'éléments disparates d'autres cultures. Également, ce qu'il note, et c'est intéressant, c'est l'ancienneté de ces pratiques. Pour lui, cela remonte bien avant l'époque moderne. Souvent, on dit, oui, la science, les techniques, c'est plutôt au moment de la Renaissance, etc. Pour lui, ça fait quelque part partie, en quelque sorte, de l'ADN de l'Occident, et ça remonte au moins à l'époque de l'an 1000. Voilà. Sa deuxième partie, c'est sur la conception médiévale de l'homme et de la nature. Alors, vous allez voir, la thèse centrale de notre auteur est la suivante, c'est que l'animisme païen a été détruit par le christianisme et que cette destruction a rendu possible l'exploitation de la nature. Donc pour lui, il y a deux éléments qu'il met en avant. C'est le fait que cette destruction de l'animisme par le christianisme va créer une séparation, un dualisme entre l'homme et la nature d'un côté, l'homme d'un autre côté. Et deuxième élément, tout aussi important, c'est que Dieu lui-même demande à l'homme d'exploiter la nature pour ses propres fins.
Et donc là, on a une sorte d'accusation de la Bible. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement dans le texte?
Tout à fait. On a une véritable dénonciation de l'anthropomorphisme biblique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de revenir au texte parce que notre ami Lyne White ne cite à aucun moment des passages de la Bible.
D'accord.
Donc, ce que je propose, c'est de revenir en effet sur la Genèse, et en particulier sur trois chapitres. Le premier chapitre, le deuxième chapitre, rassurez-vous, il n'y a qu'un verset, et également le chapitre 9. Donc, je vais commencer la lecture pour le chapitre 1.
D'accord, par le chapitre 1.
Voilà, donc c'est versets 26 à 31. Je pense que même si on les connaît, c'est important de se rappeler un petit peu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, homme et femme. Ensuite, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Et si je prends les versets suivants, Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Dans le chapitre 2, juste un petit point, le verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde.
Et dans le chapitre 9, on voit aussi qu'à nouveau on retrouve « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, etc. On a aussi, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez aussi nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous.
Donc, on voit très bien que dans ces différents textes, dans ces différents chapitres, on observe à la fois des similitudes et des différences. Donc, il y a une constante qui est quand même l'injonction « croissez et multipliez-vous ». Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Elle est dite au tout début, où on a simplement un couple, Adam et Ève. Donc, la population humaine est réduite à sa plus simple expression. Et puis, également, on le retrouve après le phénomène du déluge, où là, il n'y a plus la population humaine, l'humanité se réduit, eh bien, simplement à Noé et sa famille. Donc on voit bien que Dieu appelle l'homme, mais à croître et à se multiplier, pour maintenir justement la pérennité de l'espèce humaine. Par contre, les grandes différences entre les différents récits, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 1 et 2 et puis la suite ? Ben, il y a eu le fameux péché originel. Donc au début, dans le chapitre 1, on a le monde selon Dieu, et on le voit bien aussi dans la façon de s'alimenter. Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Par contre, on n'a pas tout à fait le même discours dans le chapitre 9, et vous l'avez très bien lu, Didier, vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux. On voit bien qu'il y a quelque chose, tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Donc on a un changement profond entre avant le péché originel et après. Donc on peut dire que la Genèse, le début de la Genèse, c'est le monde selon Dieu. Par la suite, c'est aussi et surtout le monde quelque part blessé par le péché originel. Bon, là, on est encore dans des considérations un petit peu théoriques. Donc, en pratique, mon cher Didier, comment peut-on agir vis-à-vis, par exemple, des animaux dont il est question ici ?
Ah ben, justement, on va essayer de changer un peu, de changer de posture par rapport aux animaux et non pas essayer de passer d'une posture où on exploite les animaux à une posture où on se met au service de nos animaux.
C'est révolutionnaire.
Tout à fait. Et là, alors là, je dois vous dire que moi, à la maison, je suis à bonne école. Mon épouse Dominique, qui a été éleveuse de chiens, est un exemple de service, et en particulier pour nos animaux. Tous les jours, depuis plus de 20 ans, elle se lève à 6 heures du matin. Tous les jours, les premiers gestes sont pour nos animaux, pour sortir les chiens. Ensuite, elle va à l'abri de nos ânes pour leur donner à manger, du foin. Elle regarde si tout va bien. Ensuite, elle ouvre aux poules, elle complète les mangeoires des poules. Et ensuite, elle rentre à la maison préparer les gamelles des chiens et des chats. Et vous pouvez vous demander pourquoi elle fait ça ? Eh bien, tout simplement, parce qu'elle dit tout simplement, et ça c'est son expression, « parce que nos animaux dépendent de nous, alors je me dois de leur donner ce dont ils ont besoin. » Alors c'est un exemple, oui. Pour moi.
C'est un exemple et puis une exigence.
Tout à fait. Parce que ça, quelque part, ça nous amène à quitter la posture du roi consommateur ou du roi égocentrique. Le roi consommateur, eh oui, on peut être tenté de considérer nos animaux domestiques comme nos choses. Le chien qu'on achète à Noël, qui est le cadeau de Noël, et qui sera jeté au bord de l'autoroute sur le trajet des vacances.
Eh oui.
Ou l'animal d'élevage qui, tant qu'il il apporte un intérêt, eh ben, on s'occupe de lui et sinon on le rejette. Je pense à la vache qui, ne donnant plus assez de lait, mourra affamée, abandonnée dans son pré. Ça c'est vu, oui. Un vétérinaire nous a raconté cette anecdote.
Et donc là c'est le roi consommateur. Quel est le roi égocentrique ?
Alors le roi égocentrique, là c'est un peu plus subtil. En fait, c'est un petit peu comme si on voulait faire les animaux à notre image, leur donner un pseudo-amour qui est finalement une manière de se faire plaisir, raisonner comme si le chat, le chien, était une projection de moi-même, jusqu'à en oublier les besoins de l'animal. Donc dans les deux cas, on s'accapare le vivant pour notre intérêt ou notre plaisir.
Que nous dit la Bible, justement ?
Alors, la Bible, j'ai fait référence à l'épisode du roi David. Le roi David, ce n'est pas n'importe qui. Dieu envoie Samuel le chercher et David garde les moutons. Il est au service du troupeau à ce moment-là. Le père de David croit que c'est parmi un des sept frères les plus grands et les plus forts qu'il doit choisir. Mais non, Dieu a choisi le plus petit, celui qui fait la volonté de Dieu en prenant soin des moutons et des brebis. Celui-là fait la volonté de Dieu, il est serviteur, il peut être roi aux yeux de Dieu.
Comment pouvons-nous traduire cela dans notre quotidien avec nos animaux ?
Alors, moi je crois qu'il nous faut observer les animaux qui nous entourent pour découvrir avec notre cœur comment prendre soin d'eux. En observant avec amour, on peut entrer dans le projet de Dieu qui est un projet d'amour. Et alors, nous pourrons agir avec bienveillance et respect. Comme Dominique, mon épouse, qui dès l'aurore, ou comme le roi David, qui est un grand berger, sachant bien prendre soin de ses moutons.
Et le Christ dans tout ça ?
Le Christ aussi. Il n'hésite pas à abandonner le troupeau pour aller chercher la brebis la plus fragile. Et là, on va encore plus loin. C'est-à-dire que la priorité, c'est pas l'animal le plus efficace, c'est l'animal le plus fragile. C'est la brebis égarée, le malade, le pauvre. Et comme le berger devenu un grand roi, le Christ nous montre dans des paraboles pastorales qu'une attention pour les animaux les plus fragiles nous ouvre aussi au service de nos frères. Il va donner sa vie pour ses brebis. Voilà, donc un nouveau pas vers l'écologie intégrale, c'est de se mettre au service de nos animaux domestiques et familiers. Et alors, c'est une manière d'avancer pour servir nos frères.
Merci Didier pour ces réflexions et ces conseils, pour ce changement de regard que nous devons porter sur nos animaux. Et je vous dis à tous, à très bientôt.